Voilà, nous sommes à Noël. Et quelle que soit la manière dont on l'aborde, on arrive toujours à cette conclusion, Noël est la fête de l'amour. Mais j'ai vu quand même beaucoup d'articles ces derniers jours dans les journaux qui disaient « c'est pas si simple que ça ». Comment faire une fête? On se donne des cadeaux, on va se voir en famille. Et parfois, eh bien, c'est là où des tensions émergent, c'est là où des personnes sont mal à l'aise, etc. Et en fait, je peux vous dire une chose, c'est que c'est aussi un amour paradoxal dans le récit de Noël. Le récit de Luc met en scène un certain nombre de personnages qui sont différents de l'évangile de Matthieu, sauf Marie et Joseph. Et chaque personnage est mis au défi d'aimer d'une manière un peu particulière. Joseph, tout d'abord, emmène sa jeune femme sur les routes alors qu'elle est enceinte. Drôle manière de l'aimer. Marie quitte le confort de sa maison pour suivre Joseph et elle va mettre au monde, seule apparemment, son bébé, qu'elle aime déjà, mais pour une femme, accoucher seule, ça n'existait pas en fait. Les bergers, ils ont la peur de leur vie en voyant les anges dans le ciel. Et Marie et Joseph les accueillent. Et j'ai essayé de m'imaginer, venant des champs un peu boueux, ils n'étaient peut-être pas très propres, ils se penchent au-dessus du bébé. Oui, c'est un amour paradoxal, mais un amour ouvert à l'inattendu. Et si on regarde aussi dans l'évangile de Matthieu, Joseph doit aimer Marie au point de l'accueillir chez lui alors qu'elle est enceinte. Ça ne se fait pas du tout. Les mages, ils font des kilomètres et des kilomètres loin de chez eux pour découvrir finalement que le roi annoncé n'est pas ce qu'ils croyaient. Et le bébé mis au monde risque déjà sa vie. L'amour est révélé dans ses gestes, cette acceptation, cette ouverture à l'aventure de Dieu. Et cet amour paradoxal n'est pas confortable. Il n'est pas prévisible et pourtant il est bien là. Une écrivaine chrétienne française, Christiane Singer, a écrit un texte sur le titre que moi je mets, c'est « La conspiration de l'amour ». Alors je vous en lis un petit passage. Le monde ne tient debout que par la conspiration de l'amour. Tout ce qui fait du bruit autour de nous, dans le vrombissement des actualités, délimite l'exact périmètre de ce qui n'est pas très important. Si la terre tourne, c'est grâce à ces milliers de gestes d'amour que font des milliers d'hommes et de femmes inconnus, et qui renouvelle ce matin le pacte entre le ciel et la terre, malgré tout. Noël, c'est ce pacte entre le ciel et la terre. C'est cette affirmation que désormais l'amour le sera le ciment le plus solide entre les humains, appelé à limiter l'avancée du mal. La conspiration de l'amour. J'aime bien cette expression parce que La conspiration, c'est un accord secret entre plusieurs personnes pour renverser un pouvoir établi. Et le mettre en lien avec l'amour m'inspire une espérance infinie. En effet, je peux imaginer que Dieu conspire, c'est-à-dire qu'il œuvre secrètement pour le bien de tous, pour le salut de toute l'humanité. Et ce qui me plaît, c'est que Dieu ne peut œuvrer qu'à travers nous, à travers les milliers de gestes d'amour que nous faisons tous les jours. Je continue un petit peu le texte. Chaque matin, les hommes et les femmes qui prennent soin de la parcelle du réel qui leur est confié, leurs enfants, leurs jardins, leurs maisons, leurs enclaves, leurs lieux de travail, sont en train de sauver le monde sans le savoir. Oui, c'est grâce à cela que la terre continue de tourner, à travers ces gestes souterrains, discrets, qui participent à cette conspiration de l'amour. Alors on sait que c'est difficile, nous-mêmes, nous sommes toujours en lutte, en questionnement. Parfois, il y a un basculement, un passage à faire, une acceptation pour dépasser nos préjugés, parce que cela peut faire peur d'aller dans un inconnu qu'on imagine, parfois humiliant, mais qui se révèle en Dieu un chemin de vie. Alors, je vais vous raconter une histoire d'une amie. C'est une vieille amie qui était sous l'emprise d'une autre femme, parce que cette autre femme avait besoin d'argent. Et pourquoi elle avait besoin d'argent? Parce qu'elle jouait à des jeux d'argent. Elle était complètement addicte, dépendante. Et évidemment, tout son entourage, son frère, ses amis, sa sœur, lui disait qu'elle se faisait avoir et qu'il fallait absolument qu'elle arrête de donner de l'argent à cette personne. Mais elle n'écoutait pas parce que cette femme lui faisait un chantage en lui disant qu'elle avait besoin de cet argent pour soigner sa mère. Évidemment, quel argument! On ne peut rien opposer à ça. Et elle l'a fait pendant des années et des années. Et en fait, il y a un moment, on a compris que notre amie était en train de dépérir. Comment la sauver? Son frigidaire était vide. Parce que cette femme allait la voir en début de mois pour qu'elle retire toute sa pension de retraite. Et elle prenait l'argent et elle lui laissait 3 yaourts dans son frigidaire. Comment faire? Comment lui faire comprendre qu'elle était en danger? Il fallait l'aimer autrement. Parce que bien sûr, les gens qui lui disaient « mais arrête, c'est complètement fou », ils l'aimaient, ces gens-là. Il fallait l'aimer autrement. Et ça, ça nous remet en cause, nous-mêmes. Il faut qu'on se pose, qu'on réfléchisse, qu'on se dise « mais comment faire ?» On ne peut pas finalement sauver l'autre malgré lui. Jésus en sait quelque chose, lui qui est venu nous sauver, il connaît la résistance des humains. Alors il a fallu simplement s'asseoir à côté de cette dame. C'est dans l'écoute et la prise en compte de sa parole que la vieille amie a pu être sauvée. Un autre de ses amis a décidé d'aller la voir de façon tout à fait amicale, sans parler de rien, sans rien lui reprocher surtout, et il l'a écoutée, il l'a un peu fait parler évidemment. Il a été la voir une fois, deux fois, trois fois. Il a écouté la vie des autres et il a demandé à ses amis croyants de prier pour elle et lui. Et aux autres qui n'étaient pas croyants, d'avoir simplement une pensée au moment où il allait la visiter. Et puis, à ce moment-là, c'est là que l'expression « conspiration de l'amour » me parle. Parce qu'il y avait plein de gens autour et ce n'était pas nécessaire d'être croyant pour aimer. Et donc, il l'a écouté. Il a essayé de lui montrer tranquillement les incohérences de l'histoire de cette personne néfaste. Et au bout de plusieurs visites, pas avant, il a sorti son ordinateur et il s'est branché, il s'est mis sur les sites de jeux d'argent. Et l'ami a vu que le nom de cette femme apparaissait. Et là, elle a eu une expression, elle a dit « Ce sont des pots de saucisson qui me tendent des yeux. » Vous savez, c'est comme l'apôtre Paul qui dit « Il y a des yeux qui tombent de ses écailles. » Le texte raconte ça. Des écailles qui tombent de ses yeux, pardon. En tout cas, elle a vu clair sur sa situation. Et à partir de là, elle a pu être sauvée petit à petit. Ça a été long parce qu'elle avait énormément de dettes, elle était en mauvaise santé et surtout elle avait une confiance complètement brisée. Mais elle a remonté la pente grâce à tous les amis qui l'ont entourée. Alors oui, c'est à travers de nos gestes humains que Dieu a besoin de nous et il a besoin qu'on ouvre les yeux sur le fait qu'on n'est aussi qu'un maillon de la chaîne. On n'a pas à faire toute la chaîne, mais on va faire notre part. Et puis c'est à nous aussi d'ouvrir les yeux sur des fruits de l'amour qui sont donnés par des personnes dont on n'attend pas cela, qui vont parfois au-delà de nos principes moraux. Cette semaine, j'ai reçu une prière qui venait d'une amie qui habite à Nazareth, en Israël-Palestine. Dans cette terre où Jésus est né, il y a énormément de gestes de paix. Et quand on pense à ces gens-là, c'est auprès d'eux qu'il faut prier, c'est eux qu'il faut les remettre dans la prière. Les Palestiniens, les Israéliens, les Juifs, les musulmans, les chrétiens, il y a des lieux où ils se retrouvent et où ils désirent ardemment la paix. Et donc cette prière était écrite par une femme rabbin et une femme musulmane. Cette prière s'intitule « La lumière qui relie cœur à cœur » et qui se termine par « Il est possible de vivre avec amour, il est possible de vivre avec miséricorde, il est possible de vivre maintenant ensemble. » Ce n'est pas tant les mots qui sont importants que les gestes et la volonté de se mettre ensemble pour vivre des choses, parler ensemble. L'amour demande de la volonté. Quand on est en couple, on le sait, mais on sait aussi que la réconciliation est une voie bien plus vivante que la cristallisation des conflits. Rester à l'écoute quand on ne peut plus rien faire et rester vigilant si une porte s'ouvre. Oui, notre Dieu est un Dieu d'amour. Et l'épître de Jean dit « Celui qui aime connaît Dieu ». On peut donc connaître Dieu sans le connaître. On peut aimer sans savoir qu'on connaît Dieu en aimant. L'amour est un outil invisible pour sauver les humains et nous pouvons nous en faire des instruments. C'est pour cela que Dieu envoie Jésus dans le monde, pour qu'il nous guide dans notre apprentissage à aimer et pour que nous entrions dans cette chaîne de relations, d'amour. Alors Noël, c'est un amour inattendu d'un Dieu qui se fait tout petit pour nous rejoindre. Noël, c'est un amour infini qui existe bien au-delà de la vie terrestre. Et Noël, c'est la conspiration de l'amour pour chacun et chacune d'entre nous. Amen.